על הבוקר טוב. Nous avons aujourd'hui un travail pas simple, celui d'expliquer un peu la faute du veau d'or. Chetta Egel, la faute du veau d'or, c'est la faute originelle du peuple. Alors qu'avant, nous avions la faute individuelle d'Adam Harishon. Ici, il s'agit de la faute originelle du Klal Israël. Donc il faut évidemment toujours approfondir, essayer de comprendre. On va rappeler les questions classiques, rapidement, les questions classiques. Et après, on va voir dans le texte différentes choses. Donc, ayez bien le chumash prêt pour qu'on puisse regarder dans les mots dans quelques instants. Il faut savoir que la faute du veau d'or, d'abord, premièrement, laisse des traces dans l'histoire. Alors, nous on le sait, c'est une passouk dans Shemot, donc dans cette paracha, chapitre 32, verset 34. « Ubeyom pokdi ufakakti alehem chatatam. » Tamid dirashi. Keshefkod alehem avonotehem ufakakti alehem me'at mina avonaze imshar avonot. C'est-à-dire que Dieu dit « Je vais garder cette faute et chaque fois qu'ils fauteront et qu'il y aura d'autres raisons de les sanctionner, eh bien, je rappellerai cette faute et j'associerai cette faute aux autres fautes. Si je m'en rappellerai, mais at mina avonaze, un petit peu de cette faute, imsha'ar ha'avonot, avec les autres fautes, ve'en puranut ba'al Israël, she'en ba'ktsat mi pira'on avon ha'egel. Je traduis. Il n'y a pas de sanction qui vienne sur Israël où il n'y ait pas un petit peu d'un paiement, Piraon, c'est un paiement de la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, on la paye à crédit. On a étalé le paiement sur combien d'années ? 3300 ans déjà. Un peu plus, jusqu'à la fin du temps, jusqu'au Mashiach, on la paye. Alors, chaque fois qu'il y a un paiement comme de notre part, si on peut dire comme ça, eh bien, on paye en même temps un petit peu la faute du veau d'or. Bah, c'est rien que ça, c'est donc ça vaut la peine déjà de bien comprendre ce qui se passe, parce que, déjà pour cette raison. Alors, évidemment, les questions sont simples, je les ai rappelées juste pour poser le débat, mais bon, les questions, je pense que vous les avez posées vous-même. Comment est-ce possible qu'on soit tombé si bas ? On vient de recevoir la Torah, et juste après, on fait le veau d'or. Quelle était l'idée du peuple juif en faisant le veau d'or, c'est écrit dans Ramban, « En tipesh baolam », les mots de Ramban. « Il n'y a pas d'idiot, d'imbécile dans le monde, chez Archov qui pensera qu'il y a zahavazé, que cet or, « Asher hayab oznehem » qui était à leur oreille, « ou Asher otsiam imitzraim », c'est ça, c'est lui qui l'a fait sortir d'Égypte, si vous lisez les mots. « Ele Elohecha Israël, Asher he'elucha me'eret Yisraim », voici les dieux, tes dieux Israël, qui t'ont fait grand sortir d'Égypte, monter d'Égypte. Attendez, mais ces dieux-là, ils n'existaient pas il y a quelques instants. Vous êtes venus de prendre de l'or et vous avez dit, voilà ce qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est juste les mots du Ramban. En tipesh ba'olam. Il n'y a pas d'idiot dans le monde qui puisse dire une bêtise pareille. Voilà les mots forts du Ramban. Bon, comme c'est Ramban, je dis ces mots, mais très franchement, ça tombe sous le sens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Troisième question, pourquoi est-ce que, à cause de tout cela, on est obligé de casser les louchot, il n'y a plus Brit Torah ? C'est pas normal, cette réaction-là de tout casser, de tout briser, c'est quand même terrible, c'est que la conséquence, en dehors de la faute, de la gravité de la faute, il y a encore une conséquence, les premières louchot sont brisées. Ce sont des questions simples, comprendre pourquoi est-ce qu'il faut casser les louchot, etc. Bon. Je vais essayer de vous donner une explication, on va dire, inspirée par le Gaon de Vilna. Je ne vais pas dire que c'est le Gaon de Vilna qui a dit ça, mais il y a différentes choses qui vont être inspirées par le Gaon de Vilna, entre autres. Alors, commençons par le commencement. D'abord, les explications les plus simples, les plus proches du pshat, rappelons-les rapidement aussi. Rabbi Yehuda Halevi, dans son livre Le Kuzari, il dit quelques phrases qu'il ne faut pas oublier. Le Kuzari nous dit... M bikshrak bikshu, c'est les mots. Bikshu shiye itam tamid ne'evad muhash. Ils cherchaient quelque chose qui n'est pas en fait lui un dieu, mais quelque chose qui puisse être un peu une sorte de synagogue, de lieu, d'endroit, d'être qui représente quelque chose. Ils ont besoin de quelque chose de mouchach. Mouchach, ça veut dire quelque chose qui soit concret, sensible. Alors, déjà, il faut se remettre dans l'esprit de l'époque. Chaque peuple avait ses idoles, des idoles qui étaient représentées par des morceaux de, je sais pas, de bois, des symboles de métallique, bref, des symboles, mais des matières visibles, des matières que l'on pouvait servir. Et très franchement, je pense pouvoir dire, d'après ce que j'ai compris, parce que c'est vrai que c'est difficile pour nous d'imaginer l'idolâtrie, c'est tellement loin de nous. C'était jamais la chose elle-même, plutôt que ce qu'elle représentait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce besoin de servir quelque chose de mouchach, c'est-à-dire de ressenti, c'est très normal dans cette époque. On va dire qu'aujourd'hui, c'est un peu différent, c'est un peu changé. Ça nous frustre toujours de ne pas avoir quelque chose. Je vois les gens qui se rapprochent du Sefer Torah comme si c'était un dieu. Bon, je sens que les gens ont besoin de cette relation avec quelque chose de palpable, de visible. De tangible. Bien. Alors, ça c'est un premier point. Donc en fait, il ne s'agissait pas d'idolâtrie au premier degré, dans le sens où ils croient en Dieu, c'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, c'est sûr. L'erreur, c'est d'avoir fait une tmouna et pesel. Rappelez-vous, dans les Aseret Hadibrot, vous ne ferez pas une statue, vous ne ferez pas une image. C'est-à-dire, même s'il s'agit de servir Hachem, et il s'agissait là de servir Hachem, on n'a pas le droit de faire des représentations qui sont des représentations, comme des statues, parce que là, c'est interdit par lui-même. C'est une avéra, même si je crois en Dieu, et même si c'est Dieu que je veux servir à travers ça. Ça, c'est l'explication du pshat. C'est l'explication les plus connues, Ibn Ezra et Rabbi Yehuda Halevi. D'autres disent qu'ils ont voulu prendre un remplacement à Moshe. En tout cas, tout ce qui réunit ces explications, c'est qu'il n'y a pas de refus de Dieu. Il n'y a pas d'exclusion d'Hachem. Il y a une véritable adhésion à Hachem, mais ils essayent de créer une forme de relation à leur niveau. C'est-à-dire qu'ils essayent de créer une relation, une pratique religieuse, un culte, qui représente, qui assouvisse un peu leur besoin de spiritualité, on va dire, représentée par des choses plus concrètes, plus palpables. Bon, ça c'est, merci beaucoup. Ça c'est, on va dire, l'explication la plus classique. Bon, mais vous n'êtes pas venu ici écouter une explication classique, vous êtes venu passer une explication un peu originale, on va dire comme ça. Bien, alors pour comprendre cela, je vais avoir besoin d'un Midrash Tanhuma. Le Midrash Tanhuma est assez connu, mais l'explication du Gaon de Vilna est moins connue. Lech red. Les deux mots, c'est lech red. Va, descend. Amar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Ata roe re'iya achat, ve ani roe shne re'iyot. Tu vois une vision, un regard, mais moi je vois deux regards. Je vois un peu plus que toi. Shani roe shevaim esinaï. Je vois qu'ils viennent au Sinaï. Ome kablim. Torati, ils recevront ma Torah. Ve'ani yored besinai betat ramilim. Je vais descendre sur le Sinaï avec le dévoilement de la Merkava, c'est-à-dire du char céleste, qui est décrit d'ailleurs dans le livre de Yechezkel. Shehem mitkavnim bo veshomtim echad mehem umachisim otibo. Ils vont littéralement prendre dans le char céleste une partie du char céleste, ils vont littéralement le shipper, le prendre. Shomti moto. Ils vont le subtiliser. Ils vont voir dans le char céleste quelque chose qu'ils vont prendre à leur compte. Ils vont essayer de rattraper. Et de quoi s'agit-il ? C'est un verset dans Yechezkel. Upne shor mehasmol. Dans le char céleste, il y a la représentation d'un taureau sur le côté gauche. Et lorsque vous regarderez dans Tehilim, chapitre 106... Vous verrez, Vayamiru et Kvodam betavnit shor. Vayamiru et Kvodam betavnit shor. Ça veut dire qu'ils ont pris littéralement, transformé, échangé Kvodam, leur Kavod, avec la forme d'un taureau. Donc on ne parle pas du Egel, on parle du taureau. Et après, Kamazahav Aya Beoto Egel, combien y avait-il d'or dans ce taureau, dans ce bélier, dans ce veau? Rabbi Tanchum Bachaninayom Amar, Mea ve Esrim ve Chamisha Kantere Zahav Ayabo. Il y avait 125 Kantere, c'est donc une quantité d'or, Sheken Masecha Begematria. Masecha, c'est donc valeur numérique 125. Bon. Évidemment, compliqué là. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que le Midrash nous dit? C'est Midrash Tanchuma. Hein. Qu'est-ce qu'on nous apprend ici? Littéralement, au moment de la révélation du Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu est venu sur le mont Sinaï, il s'est révélé aux Juifs. Les Juifs, ils ont vu un char céleste. Autour du char céleste, ils ont vu un taureau. Ils ont dit, tiens, ça tombe bien, on va le prendre celui-là. Allez, viens, monsieur le taureau, on t'attrape et on va te faire notre idole. Voilà, ça c'est le... C'est ce que dit le Midrash. Bon. Alors, Ramban et Rabbeinu Bachia expliquent qu'en fait, la forme de Hegel, c'est la nous de Shor qui représente Midat Adin. Voilà ce qu'ils disent Ramban et Rabbeinu Bachia. Zahav, l'or, est un symbole de Midat Adin. Alors, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont voulu tout simplement, a priori, c'est, on va dire, prendre une des midotes, un des attributs de Dieu, qui est la rigueur, et ils ont voulu, l'apprivoiser, la prendre vers eux pour essayer de, on va dire, quelque part, de la juguler, de la maîtriser, de l'attendrir. Donc, ils ont cette notion de shor. Le taureau, c'est cette symbolique, ce nom Ramban et Rabbeinu Bachia, c'est la notion de Midat Adin. Donc il n'y a pas, encore une fois, de rejet de Dieu, phrase de Shalom, pas de rejet de Dieu, mais une volonté de capter un aspect de Dieu pour essayer de l'attraper, de le prendre, de l'apprivoiser. C'est très intéressant au niveau psychologique d'analyser ça, parce que chaque fois que j'en parle d'une religion, on est sans arrêt en train de gérer la problématique de la rigueur, en fait, de la peur des hommes face à la souffrance et à la mort. En fait, c'est ça. Donc, vous avez dans le monde chrétien beaucoup de symboliques très, très mortifères, mais dans le but, justement, de faire en sorte qu'il y ait une sorte de paratonnerre à la rigueur divine. C'est tout le sens du christianisme, c'est de se dire qu'il y a quelqu'un qui va gérer cette colère divine. Vous avez dans l'islam cette notion de privation et de se priver pour pouvoir justement amadouer Dieu. Dieu, il faut qu'on lui donne un sacrifice. Le sacrifice, c'est le ramadan, c'est ne pas manger certains produits et certaines boissons et d'avoir certaines règles. Vous voyez, c'est une sorte de privation, comme une sorte d'offrande à Midat Adin. C'est toujours cette Midat Adin, cet attribut de rigueur. En fait, c'est comme s'il fallait que l'être humain, obsédé par la mort et par la souffrance, se dit, bon, il faut que j'ai une relation avec mon Dieu où je trouve des solutions à ce problème. Donc à la limite, je prends un taureau et je le modoue, il devient, comme ça me calme, je me dis, voilà, ça y est, je suis tranquille, la rigueur divine va être très 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 satisfaite de ma relation, de mon rapport avec elle, je peux m'en sortir. Bon, ça c'était la chose, je pense, assez connue. Je voudrais maintenant passer à quelque chose de moins connu. Alors on va passer à la partie un peu plus, on va dire, méconnue. Moi, je voudrais rester sur la notion du shor, du taureau. Et j'ai eu un chidouche en lisant ce Mima Hamakim. J'ai compris quelque chose. J'espère que c'est émettre, que c'est vrai. Vous me direz ce que vous en pensez après. Alors, on va commencer par un Gaon de Vilna. Un Gaon de Vilna, dans son livre Saharat Eliyahu, il dit quelque chose d'assez étonnant. Je vais vous demander de prendre un passouk dans Shemot, chapitre 21. Donc c'est Mishpatim, en fait. Donc chapitre 21, verset 37, dans Mishpatim. Alors c'est à la page 456, lorsqu'on est dans les Artskol. Qui ignove Ish. 456. Qui ignove Ishor Ose Utvacho Mecharo. Lorsqu'un homme volera un taureau ou un agneau, et il l'égorgera ou le vendra, Ramisha Bakar Yeshalem Tachatashor. Il doit payer 5 fois le taureau. Il doit payer en fait 5 fois ce qu'il a volé. S'il l'a volé plus égorgé ou vendu. Inversé dans Mishpatim, payer 5 fois. Ve'arbatson tachatase. Et 4 fois s'il s'agit d'un agneau. Vient le Gaon de Vilna et il nous dit qu'ici, il y a un midrash. Adam echad me elef ze ma'ase ha'egel. Un parmi mille, c'est ma'ase ha'egel. C'est la faute du vaudor. Aynu shirak echad mikol elef mi Israël chata. Il n'y a qu'un sur mille qui a fauté dans le peuple juif. Il y avait combien de juifs? 600 000 hommes. Vous savez que les femmes n'ont pas fauté. 600 000 hommes. Sur 600 000, vous prenez echad me elef. Un parmi mille. Ça fait combien? 600 000, je pense qu'a priori, vous m'avez fait peur, là. Vous avez fait tomber mon cours. 600 sur le 600 000, c'est un millier. Un millième, c'est 600. Maintenant, Khamisha, si vous pouvez faire payer 5 fois Tachatashor, 3 000. Combien de morts sont écrits dans la Torah? Il y a écrit qu'il y a eu 3 000 morts. Donc 3 000 morts, c'est 5 fois Echad Me'elef, un millième. C'est le Midrash qui dit que c'est Echad Me'elef, c'est en fait le Midrash évalue qu'il n'y a eu que 600 personnes qui ont vraiment fauté. Que 600 personnes qui ont vraiment fauté. Maintenant, il y en a 3 000 morts, pourquoi? Parce que ça, j'imagine que ça veut dire qu'il y a eu des collabos, c'est-à-dire des gens qui étaient un peu, ils n'ont pas fauté vraiment, mais ils étaient un peu trop proches du système et qui sont pris parce qu'ils n'ont pas été suffisamment, ils n'ont pas réagi comme il faudrait. Donc une faute moins grave, on va dire. 3 000, c'est une faute moins. Mais c'est ça qu'il dit. Khamisha tachatashor. 5 fois par rapport au taureau. C'est quoi le taureau? Le taureau, c'est la faute du vaudor. Et 5 fois par rapport à celui qui a fauté. Il y en a 600 qui ont fauté. 5 fois. Évidemment, s'il n'y avait pas le Gaon de Vilna qui disait ce genre de choses, je n'oserais pas de dire, mais c'est pour vous expliquer chatou les mots du Gaon de Vilna. Rak sheshmeot ish. 600 hommes ont fauté. Vous vous rendez compte que c'est 600 hommes sur 600 000, plus les femmes, les enfants, etc. Mais c'est moi, j'avais jamais entendu ça. Alors, le Hérevra, on va en parler dans quelques instants. Alors, il faut bien comprendre que j'ai dans mon cours 2 volets. Et un volet qui complète l'autre, mais effectivement, le Hérevra, on va s'en occuper. Mais pour l'instant, les 600 hommes, a priori, c'est 600 000 Israël. 600 Israël. Chamesh Pehamim Sheshmeot, 5 fois 600, égale 3 000. Et effectivement, 3 000, vous verrez, c'est le chiffre exact écrit. 3 000 victimes, 3 000 personnes qui sont mortes suite à la faute du Vaudor. Bien. Et c'est très intéressant la notion de qui ignove. Ce qui m'a intéressé, c'est qui ignove lorsqu'il volera. Selon le Midrash, ils ont volé littéralement au char céleste, le char, Shomtou, c'est qu'ils l'ont vu passer, ils ont dit « Ah, ça tombe bien, allez, viens, on le prend ». Vous avez bien compris que c'est une image, mais ça veut dire qu'ils ont dit, tiens, le char céleste, il a aussi le chor, le taureau, donc on va le prendre, on va l'attraper, et on va le... Ça fait partie des attributs de Dieu, vous avez compris. Le taureau étant dans le char céleste, c'est-à-dire qu'il fait partie des attributs de Dieu, prenons cela, volons-le, d'accord. Et comme ils l'ont volé, ben, il faut payer 5 fois, et c'est pour ça qu'il y a 5 000, il y a 8, 3 000. Voilà ce que dit le Gaon de Vilna, je dis encore, si le Gaon de Vilna n'avait pas dit ça, je ne sais pas si j'aurais osé dire une chose pareille. D'accord. Donc c'est 3 000 par rapport au fait d'avoir fauté par rapport au short du Lamerkava. Bien. Alors, messieurs, je voudrais vous expliquer que dans la Torah, vous savez très bien, ça je pense que c'est évident pour vous, même si ils ont cru en Dieu, même si c'était une façon de servir Dieu que de prendre le taureau, etc., il y avait toutes les pensées les plus belles et les plus, on va dire, méritoires. Vous le savez tous, on n'a pas le droit de contrevenir à l'ordre divin. Et si l'ordre divin, c'est qu'on n'a pas le droit de faire de représentation sous la forme d'un statut, même si c'est notre but, c'est de parler, de penser, de prendre. Toutes les plus belles images, les plus motivations, ça ne tombe pas, ça ne marche pas. Il faut être respectueux de la halakha, de la loi très claire qui a été dite. Pas de représentation, même si c'est pour servir le taureau qui représente ceci, cela. Ça, c'est un premier point. Je voudrais vous rappeler qu'il y a quelques années déjà, je vous ai plusieurs fois cité, et je ne me rappelle plus qui était l'auteur, Mechila, que le taureau était symbole aussi de Yosef, n'est-ce pas? Et que d'une certaine façon, pour certains commentateurs, c'était une volonté de revenir à Yosef. Et pourquoi Youssef? Parce que Youssef, c'était le roi en Égypte. Et là, Moshe leur propose de sortir d'Égypte. Et tout simplement, eux, ils ne veulent pas sortir d'Égypte. Ils disent, mais on était bien. D'accord, en Égypte, tel qu'on était, ce n'est pas bien, non. En Égypte, tel qu'on était, on en travaillait peut-être pas. Mais avec l'époque de Youssef, lorsque Youssef était en vie, c'était bien l'Égypte. On était bien en Goshen, dans le pays riche. On était bien en Égypte. Donc, quelque part, c'est une volonté de retrouver le taureau, c'est-à-dire la dimension Youssef, en Égypte. Je vais donner cette explication il y a quelques années. Mais les années passent et on évolue. Et surtout, on lit des choses qui peuvent nous permettre de mettre la puce à l'oreille. Alors, je voudrais ici, aujourd'hui, faire un lien entre cette première partie, je pense, assez connue, une deuxième partie moins connue, et de faire un lien qui est absolument inconnu. Voilà. Et j'espère qu'elle est vraie. Alors, on y va. Alors, ici, plusieurs personnes ont commencé à dire « Erevrav, Erevrav », ça les dérange. Ils veulent qu'on parle du Erevrav. Ils ont raison. Parce que c'est pas n'importe quoi le Erev Rav. Vous donne simplement le Gaon, encore une fois. Bon, c'est aujourd'hui un cours sur du Gaon. Enfin, du Gaon, non. Un cours sur le Gaon. Le Gaon Tikkuné Zohar. Donc, c'est un Gaon qui dit la chose suivante. Comme au Chatvoa, Yeshlocha Mine Psolet. Vous savez que les céréales, ils ont trois, par exemple, parleront du blé. Il dit qu'il y a trois choses, on va dire, à jeter, trois déchets. Qui se trouvent autour d'un grain de blé. Motz, teven, vesubin. Alors, subin, ce sont un peu c'est le son. Teven, c'est la paille. Et motz, c'est une partie, je ne sais pas comment il s'appelle exactement en français, qu'on dit exactement en français, c'est un élément qui recouvre le grain de blé, mais qui n'est pas juste sur le son est juste sur le grain de blé. La paille, on sait très bien ce que c'est une partie de la tige qu'on va jeter, mais il y a aussi encore une un bouton, je ne sais pas comment ça s'appelle, motz. Donc on dit qu'il y a trois éléments qui protègent le grain de blé. Ken be Israël shinim sheu letvua. Israël a été comparé aux céréales. Reshitvuato, c'est qui? La prémisse de ces céréales, de sa récolte. Nimtzeu shlosha min epsolet. On a aussi trois déchets, trois éléments. Ishmael, Esav et Erevrav. Ishmael, Esav et Erevrav sont les trois psolètes, les trois éléments qui sont autour du grain de blé et qui sont des déchets qu'il faut jeter, qu'il faut écarter pour manger le grain de blé. Ha Erevrav em keneged asubin. Le Erevrav est comparable au son. Pourquoi? Shehem dvekim bachet meod. Ils sont très attachés à la faute. Alors quand vous avez compris que Esav et Ishmael, ils sont liés à qui? Esav. À Yitzhak, c'est la psolète, c'est le déchet de Yitzhak. Ishmael, c'est le déchet d'Abraham. Donc vous allez tout de suite comprendre que Erevrav, c'est le déchet de Yaakov. C'est ce que dit ici le Gaon dans le Tikkuné Zohar. Donc, Absolet Shem Keneged Yaakov, Emneged Bitul Torah, Uprikat Olt Malchut Shamaim, Vehem Dvukim Meod Be Israël. Il prend l'image du son. Le son, il est très proche du grain, n'est-ce pas? Il colle véritablement le grain. Et donc, lorsqu'on parle de sortir le soubine, il faut sortir. Bon, aujourd'hui, prendre un pain complet, c'est considéré comme un plus, un top. C'est plus cher que le pain blanc. À l'époque, le pain complet, c'était considéré comme un truc pas bon. Il fallait au contraire enlever le son pour avoir un pain bien blanc. C'était quelque chose de qualité. Donc, enlever le son, c'était une nécessité absolue pour avoir un bon pain, un bon produit. Donc, on nous dit que ce qui caractérise le son, c'est qu'il est vraiment collé au grain. Vraiment collé au grain. Et donc, c'est un déchet particulièrement collant. Parfaitement. Vukim, bachet meod. Et on est très attaché à la faute.
Il adhère
totalement. C'est par rapport à Yaakov et Seneged Bitul Torah et Prikat Ol Malchut Shamayim. Il y a la perte de temps dans l'étude, ne pas étudier, la volonté de ne pas étudier, ou surtout la manque de volonté d'étudier, enfin, bitul Torah, prikat ol malchut shamayim, littéralement, se faire sauter le joug divin, le joug de la royauté divine. C'est une volonté comme ça de se débarrasser de ce ol, de ce carcan, de ce devoir, de ces obligations. והם דבוקים מאוד בישראל, וישראל לומדים ממעשיהם, et les juifs apprennent de leurs actions, והם העשירים על איזה גאוותך ועל איזה גאוותך, ועל אין בן דוד בת שיחלה גסי הרוח מישראל. Ce sont les riches orgueilleux. C'est des gens, en fait, qui, dans un autre endroit, le Gaon de Vilna, il ne mâche pas ses mots. Ce sont des gens qui construisent des synagogues, qui offrent des parures au Sefer Torah pour se faire un nom. C'est-à-dire qu'ils peuvent être dvukim, attachés à Israël. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont participent, ils sont présents, ils sont même des donateurs, ils participent, mais ils n'ont aucune intention propre, aucune intention, l'Hashem Shamaim. Tout est là pour se mettre en avant par orgueil, par fierté. Ils essayent simplement d'utiliser ça. Donc ils sont collés, ils sont là, mais ils sont complètement, en fait, out. V'chol azé panim ureshaim shebador em migilgul nishmatam shelerevrav. Les mots du Gaon de Vilna. Tous les êtres, on va dire, effrontés, les reshaim, les vrais méchants de la génération, sont des réincarnations des âmes des Erevrav. Et d'abord, si vous voulez avoir une petite image du Gaon, encore une fois, parce que je vous ai dit, ce chayour, c'est beaucoup le Gaon de Vilna, vous prenez Erevrav, faites un petit jeu de mots, faites une petite analyse, vous extirpez Ra, parce que dans Erev, il y a le mot Ra. Donc prenez Erev, il y a Aïn, Resh, Bet. Donc vous enlevez Aïn, Resh, vous avez Ra, le mal. Il vous reste Bet, Erev. Ensuite, vous avez Rav. Et Rav plus Bet, ça fait Red. Ça fait 204. Et Red, l'air Red va descendre. C'est en fait le mal que toi, tu as introduit, Moshe, puisque c'est Moshe qui a accueilli les rêves Rav, puisqu'on sait qu'on lui reproche. Il n'aurait pas dû prendre cette initiative. Hachem lui dit, mais c'est quoi? Tu ne m'as pas demandé. Si tu fais, voilà. Bon, maintenant que tu l'as fait, vas-y, prends-les. Mais pour lui, pour Akadosh Baruch Hu, il le dit clairement, c'est raide, c'est une irida, c'est une chute. C'est le mal plus une irida, c'est la raison pour laquelle on est tombé. Alors les Evrav, donc c'est quand même incroyable, hein, c'est de les mettre sur un pied, on va dire, équivalent à Ishmael, Esav et Revrav. Et de nous dire qu'ils sont là, qu'ils existent, qu'ils sont parmi nous, que ce sont des Neshamot qui sont particulièrement effrontés. Et c'est la notion de Azout Panim. Azout Panim, c'est ce qui revient partout. Azout Panim. Et on dit d'ailleurs que il y a Shalosh Klipot. Je continue sur le Gaon de Vilna. Shor Hamor Kelev. Rochet Evot Rocher. Rocher, c'est l'obscurité. Alors, Chet de Rocher, c'est Hamor. Shin de Rocher, c'est Shor. Et Chaf, c'est Kelev, c'est le chien. Donc on a trois animaux. Le taureau, l'âne et le chien. Le taureau, alors, ta'avani ve ka'asani, celui qui cherche les plaisirs, le passionné, mais dans le sens négatif, ka'asani, celui qui est en colère. Alors, ça veut dire qu'il y a Esav et Ishmael. Esav, c'est ka'asani, et Ishmael, c'est ta'avani, donc je traduis Ishmael, c'est celui qui est dans la ta'ava, dans le désir, etc., le plaisir, recherche du plaisir. Ka'asani, le coléreux, c'est Esav. Mais je ne veux pas revenir là-dessus, parce qu'effectivement, ça mériterait un cours pour expliquer pourquoi Tavani Ka'asani, mais ce n'est pas le sujet. Kelev, le chien. Boshneem, il a les deux. Koacha Ka'asani, il est coléreux parce qu'il a une grande orgueil. Et Tahava, ben Nefesh, Nefesh, Rava, il est en plus Tahavani. Donc il réunit les deux. Vous avez compris comment le Gaon de Vilna, il met les choses. Tu as Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il y a Avraham, sa klipa, son écorce, c'est Ishmael. L'écorce de Yitzhak, c'est Esav. Et l'écorce de Yaakov, c'est Erevrav. Et ça donne Rocher, Hamor, Shor et Kelev. Et Kelev, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, le chien. Le chien est appelé le plus effronté des animaux. Pourquoi est-ce que le chien est appelé un être effronté? Ça, je le dois à mon maître, Rav Shapira. C'est pas écrit ici, mais ça, il me l'a expliqué oralement. Il dit qu'en fait, le chien a une nature tout à fait différente de tous les animaux qui existent sur Terre. C'est que le chien, son kiff, c'est d'avoir un maître. Je vois des fois des grandes publicités, Porte de Versailles, comme on venait récupérer des chiens, en fait, c'est des chiens et des animaux abandonnés, ils ont envie de retrouver un maître. Je dis, mais au contraire, restez entre vous. Faites un kiff entre chiens, vous êtes bien. Non, les chiens, ils sont mieux dans les maisons de leur maître, et plus ils peuvent rentrer dans le lit, dans la chambre à coucher, de rester avec eux, les chiens, ils cherchent ça. Est-ce que c'est pas, le Rav, il nous a dit, c'est quoi la définition d'un être effronté? C'est quelqu'un qui se met à une place qui n'est pas la sienne. Celui qui revendique une place qui n'est pas la sienne. La place d'un chien, la place d'un animal, c'est dans la cour. La place d'un animal, c'est avec les autres animaux. Et le chien, qu'est-ce qu'il veut? Il veut être chez les hommes. Donc il a cette dimension de azout. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ton endroit, c'est pas ta place. Non, non, il veut être là-bas ou avec les hommes. Donc c'est le seul animal qui a la notion de... Donc le kélève, le chien, est le symbole de cette dimension-là. Maintenant, Rabotai, il est très intéressant de remarquer qu'il y a un homme qui s'appelle Esav qui a aussi un autre symbole qu'il représente. C'est lequel? Esav, vous le savez, c'est représenté par le shor, le taureau. Est-ce que vous savez que Esav et le taureau, c'est la même valeur numérique? C'est encore une fois le Gaon de Vilna qui le dit. Esav et le taureau. Oui, effectivement, c'est Yosef et c'est Esav. Et où je le vois? Ben, je le revois ici. Chosher. Chamor, shor et kelev. Chosher. Donc on trouve que il y a Chamor, c'est pour Ishmael. Ouais. Donc je répète, Chamor, le l'âne, c'est Ishmael, et c'est très clairement écrit dans la Torah. Chevou po ima Chamor. Restez avec le Chamor, c'est qui parle de comme ça? C'est Abraham qui dit à Ishmael, reste avec le l'âne. Et le Ramim et Yézer. Il leur dit, voilà, vous êtes avec le Chamor, c'est très bien. Ensuite, mais attention, c'est pas à prendre à la premier degré, hein, c'est pas qu'on dit c'est des ânes, c'est le côté, dans la dimension spirituelle de l'âne. Le Shor, c'est Esav, comme le dit ici le Gaon de Vilna. Il le dit aussi dans... rappelez-vous que le Gaon de Vilna dit ça dans Chad Gadia. Je sais que malheureusement, à la fin de la Gada, plus personne n'est trop réveillé. Mais si vous regardez le Gaon de Vilna sur Chad Gadia, vous verrez que Shor et Esav, c'est donc la même chose. Selon le Gaon de Vilna, c'est le taureau qui se parle, donc, dont on parle dans Chad Gadia, c'est Esav. Oui, alors il explique, ça dépend comment tu écris le mot Esav. Alors, maintenant, ici, le Rav nous dit la chose suivante. Il nous dit maintenant quelque chose de nifla. Il nous dit qu'en fait, il y a dans cette dimension de taureau quelque chose que je voudrais ici vous faire comprendre. Vous êtes sans doute choqués que le taureau soit en même temps Yosef et en même temps Esav. Mais moi, je suis pas tellement étonné. Mais vous êtes étonné. Mais moi, je suis pas étonné. Pourquoi? Parce que c'est l'antithèse. C'est-à-dire... Justement, la Midat HaGevura, qui représente Yosef, celui qui prend le dessus, qui se maîtrise, qui va se retenir face à la femme de Potiphar, tout le monde connaît cette symbolique d'Esav, de Yosef, eh bien en fait, c'est la Midat de Esav, celle qu'il aurait dû adopter, mais qu'il n'a pas malheureusement, qu'il a complètement déformée. C'était quoi le travail d'Esav sur Terre? C'était pas d'être un voyou. Ça n'existe pas des gens qui naissent pour être des voyous. Son travail à lui, c'était justement d'imposer la vérité par la Midat HaGevura, c'est-à-dire de prendre le dessus sur les forces dans le monde pour imposer Yaakov, pour imposer le Emet de Yaakov. C'est pour ça qu'il veut sortir du vent de sa mère, pas pour se prosterner aux idoles, comme les gens le pensent, pour casser les idoles, pour forcer les idoles à adhérer à la vérité d'Hachem et de la Torah. Vous entendez? Je sais que c'est une autre façon. Parce qu'en fait, ceux qui connaissent Esav, ils savent que c'est Midat HaGevura. C'est la continuité de Yitzhak. Yitzhak, il aime Esav. Tous les Chachamim expliquent, le Zohar dit. Il aime Esav parce que c'est Zéné, c'est son même, c'est sa nature. Il dit, on se ressemble, toi, Esav et moi, Yitzhak. C'est la suite logique. Sauf que Esav, il s'est malheureusement, va dire, dévoyé, d'accord? Il a dévoyé, mais la force d'Esav, c'était ça au départ. Gevura. Donc vous êtes en train de voir un shor, un taureau, qui représente Esav et Yosef. C'est incroyable. Et Rabotai, regardez bien ce que nous dit ici le... Alors ici, je voulais... Donc c'est quoi le Erev Rav? C'est quoi le Erev Rav? C'est qu'en fait, en prenant ces Erev Rav, ces tourbes nombreuses, comme on traduit en français, Moshe Rabbeinu s'est dit, mais c'est très bien, c'est des gens qui font tchouba, des gens qui veulent se convertir, des gens qui veulent nous adhérer, c'est magnifique, Bruchim Abayim, venez, c'est magnifique. En faisant cela, il a fait une erreur fatale. Pourquoi? Parce que ces gens-là, lorsqu'il y a eu le Matan Torah, ils se sont sentis mis de côté parce que ceux qui savent lire et connaissent les rues, ils savent que les Rav n'ont pas vraiment assisté un matin de Torah. Donc ils se sont dit, on est là, on ne nous prend pas, on ne nous accueille pas. Bref, ils étaient déjà même eux-mêmes un petit peu frustrés et énervés. Donc vous imaginez, vous énervez un Erev Rav, déjà il n'en faut pas beaucoup, mais là, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Donc l'air raide va descendre. Erev Rav, c'est ra et raide. Ra, raide, c'est ça la valeur. Ra et raide, c'est mauvais et descend. Maintenant, Rabotai, vous allez comprendre quelque chose de Nifla. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Qu'est-ce qui se passe dans cette faux du Vaudor? Maintenant qu'on a donné toutes ces introductions, toutes ces informations, on va essayer de faire de tout cela une pâte avec une bonne challah pour au Shabbat. C'est de mélanger tous ces ingrédients, faire quelque chose. Je résume ce que j'ai dit, juste sur les dernières parties. Je vous ai dit que ici, en voyant passer, dit le Midrash Tanhuma, le char céleste, et qu'ils ont vu dans ce char céleste le Dmout Shor, la forme du taureau, ils ont voulu littéralement la prendre, l'attraper, et ils ont voulu la maîtriser, l'amadouer, comme vous voudrez. C'est Midat Adin. C'est ce qu'on a dit. On a dit également que le Erev Rav, est symbolisé par le Kelev, le chien. C'est décrit que Pnei Hador, à la fin des temps, j'ajoute, la fin des temps, Pnei Hador qui Pnei Kelev. La phase de la génération ressemblera à la phase du chien. C'est lié, selon le Kabbalah, au fait que dans la génération, à la fin des temps, il y aura beaucoup de Erev Rav qui seront, on va dire, assez puissants. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de dévoiler ici? C'est que d'un côté, vous avez une association de deux problématiques. Les Juifs qui ont fauté, c'est 1 sur 1000. Ça veut dire 600 en tout. 600 en tout, selon Gaon de Vilna. C'est tout. Le Erev Rav était évidemment en grande partie contre et voulait organiser la faute du Vaudor. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La première chose qu'ils ont fait, ils ont allé voir Hur. Ils ont dit à Hur, vas-y, aide-nous à faire le Vaudor. Hur s'est opposé, ils l'ont tué. Ils sont allés voir Aaron. Aaron a dit, s'il me tue, c'est mort. Mort pour eux. Moi, je suis mort aussi, mais eux, ils sont morts aussi. C'est la fin des haricots. Donc, Aaron le fait, malgré lui, pour essayer de retarder, de prendre du retard, vous le savez tous. Mais lui, qu'est-ce qu'il voit, Aaron? Il voit un empressement qui lui fait peur. Il se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et il voit qu'en fait, ils ont un problème avec le shor. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Si j'ai bien compris, Mechila, j'espère que vous avez bien compris, ou peut-être que j'ai déjà entendu, le problème, il vient au moment de Matan Torah. Il y a eu un Matan Torah qui ne s'est pas fait dans l'amour, il s'est fait dans la crainte. Mais ce n'était pas prévu absolument comme ça, puisque Hachem, il a dit, mettez des barrières autour de la montagne. Mettez des barrières autour de la montagne, parce que pour peur de peur qu'ils montent, lorsque je vais me révéler, ils vont monter sur la montagne, ils vont vouloir m'embrasser. Embrasser, c'est pas qu'ils n'ont pas voulu monter, c'est qu'ils sont allés des kilomètres en arrière, ils sont morts de peur. C'est donc une ira, une crainte incroyable, une peur, une terrif. Ils étaient terrifiés, c'est ça le... Donc qu'est-ce qu'ils ont vu dans Akadosh Baruch Hu? Un Dieu qui fait peur. Donc ils ont vu Midat HaGevura de Akadosh Baruch Hu. Ils ont très peur d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont dit, voilà. Et d'ailleurs, c'est confirmé dans les psukim, de manière à ce que vous ayez effectivement que vous ayez la crainte sur votre visage, comme vous l'avez eu au moment de Matan Torah. Hachem dit, quelque part, c'est bien, c'est une réussite, la ira. Mais lorsque vous ressentez une peur, vous avez deux façons de faire. Si vous mélangez la peur à la azout de Erev Rav, là, vous avez un problème. Qu'est-ce que le problème? C'est qu'à ce moment-là, vous dites, mais c'est pas possible, ça. Il y a un problème. C'est vrai que cette révélation est magnifique, extraordinaire. Mais cette révélation-là, on n'arrive pas à communiquer avec un Dieu de crainte. Il faut qu'on trouve un chenal de communication avec un Dieu terrifiant. C'est le Dieu qui leur est apparu au moment de Matan Torah. C'était pas la vérité, mais c'est comme ça qu'ils l'ont perçu, c'est sûr. Et Hachem d'ailleurs confirme, vous avez la ira. Donc comment vous faites lorsque vous avez un Dieu terrifiant? Vous vous dites, mais il faut absolument que ce Dieu, il se calme, c'est dur, c'est exigeant. Donc vous essayez de trouver un apaisement à la dimension de la Gvoura. Quel est votre champ d'action? Comment vous pouvez réagir? Alors vient le taureau. Alors le taureau, c'est très intéressant. Parce que le bœuf, il faut s'imaginer un peu ce que c'était à l'époque. C'était véritablement une force. C'est toujours une force, un taureau, c'est très puissant. Lorsque vous le maîtrisez, vous le domestiquez, vous en l'utilisez pour tirer une charrue. Et cette charrue, c'est la base de toute l'économie de l'époque. la force du taureau maîtrisé est un taureau qui vous est pour vous la source même, c'est-à-dire l'objet, l'animal le plus important de votre parmi vos biens. C'est l'outil qui vous permet de faire de l'agriculture. Le taureau maîtrisé est un taureau producteur de richesses, n'est-ce pas? Donc, lorsque je veux me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, je prends le taureau qui représente une force, mais une force qui peut être destructrice, parce qu'un taureau qui est fou, c'est très dangereux, mais une force, si elle est maîtrisée, extrêmement importante dans ma vie. Une force qui m'apporte la richesse, le bien-être. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'ils se disent ? Ils disent, Akadosh Baruch Hu s'est révélé sous la forme de la Yira. Moi, je dois, moi, juif, je me dois de capter cette force, de la maîtriser, de l'orienter. Pourquoi ? Parce que si c'est une force terrifiante qui me détruit, qui me tue, c'est pas intéressant. Il faut que ce soit une force terrifiante qui me motive, qui me pousse en avant. Mais comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Là arrive le Erev Rav. Ils font quelque chose qui est incroyable. Je vous rappelle que le Erev Rav ont pris une plaque qu'ils ont jetée dans une marmite. Dans cette marmite, il y avait l'or qui était en train de fondre, d'accord, de cuire, de fondre. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris cette plaque sur laquelle écrit « Allé-Shor ». Cette plaque avait servi pour faire remonter le cercueil de Yosef. Je vous rappelle que le cercueil de Yosef avait été immergé dans le Nil. Et que Sérach, la fille de Hacher, avait donné à Moshe le tuyau en disant « Il est là, le cercueil de Yosef, ici, là, dans le Nil, à cet endroit. » Il avait utilisé la plaque « Allé-Shor », l'avait jetée dans le Nil, et le taureau Yosef était apparu. Et on a repris le même plaque pour la rejeter dans la marmite pour faire apparaître le veau d'or. Allé-Shor, un autre taureau apparaît, c'est plus Yosef, c'est le veau d'or. Incroyable. Donc qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ? Ils sont en train de dire que la dimension de Yosef est une dimension, on va dire, qui leur convient bien parce qu'elle leur permet d'avoir une Gevoura synonyme de richesse, de bien-être, comme ça a été en Égypte. Le cas, Yosef, c'est celui qui a nourri le monde entier. Qu'est-ce qu'il a amené, Yosef ? La prospérité. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef ? Il a su maîtriser l'économie de l'époque, en rentrant par en faisant l'argent, et il a su leur donner de la richesse. Donc, eux, ils veulent retrouver le shor, donc une force de la nature, mais une force de la nature qui apporte la richesse. Ça, c'est leur approche, c'est leur demande. Et là, ce mélange de Erev Rav, et lui, il met une autre dose. Et le Erev Rav mélange une notion de chutzpah, de rébellion, de volonté de se rebeller contre qui ? Alors, ici, il faut absolument que vous voyez, il y a un passou, il y a ici un message encore du Gaon de Vilna. Est-ce que vous connaissez le passou dans Yeshaya qui dit « C'est où marom enechem, levez vers le firmament vos yeux, ou mi bara ele. » Regardez et observez qui a créé cela, mi bara ele. Alors je vous invite à prendre dans Kitissa, finalement on arrive dans Kitissa, après tout ce temps, Kitissa, voilà, finalement on est Kitissa, et je vais vous donner tout de suite la page, c'est évidemment dans la paracha du Vaudor, et il lui dit la chose suivante, lorsqu'il s'agit d'organiser malheureusement la faute, il dit Vayomer. Alors, juste avant, excusez-moi, page 528. Alors, là-dessus, regardez bien. Vayomer Alehem Aharon, chapitre 32, verset 3 ou 2, parce qu'ici il y a un petit problème. Voilà. Vayomer Alehem Aharon, parkou nizme hazav asher beozne neshechem, benechem notechem, vayaviu elai. Vayit porkou kol ha'am et nizme hazav asher beoznehem, vayaviu el Aharon. Donc, il leur demande de l'or qui est à l'oreille de leur femme, parce qu'il sait très bien que les femmes n'allaient pas vouloir. Donc, il s'est dit, demandez à vos femmes. Il savait que les femmes allaient dire non. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces hommes violents ? Ils ont arraché à leurs femmes leurs bijoux. Donc ils ont littéralement pris donc tous ces bijoux. Vayaviu el Aaron, vayikach miyadam, vayatzar oto bacheret, vayasu egel maserah, vayomru, ele Elohecha Israël. Voici tes dieux Israël. Vous avez bien vu les phrases « Ele Elohecha Israël », ça c'est la phrase qui tue. C'est la phrase du début de la fin du Vaudor. Jusque-là, ça va ? Alors, qu'est-ce qui se passe après, dans le chapitre, page 534, chapitre 32, verset 24. « Va Omar Lahem, le mizahav hipparaku vaitnouli » Je traduis. « Qui a de l'or ? Ils l'ont retiré et ils me l'ont donné. » Le mizahav, mizahav. Regardez comme c'est extraordinaire. Dit le Gaon de Vilna, « Mi Zahav » et « Ele Elohecha Israël ». Voilà deux phrases qui tuent. « Ele Elohecha Israël », la proclamation de « Voici tes dieux Israël » et « Mi Zahav » qui a le... Regardez le mot « Elohim ». Le mot « Elohim » est un mot, donc Dieu, est un Dieu donc, qui est composé par « Mi » et « Ele ». « Elohim ». Vous composez, vous séparez les deux, vous avez « Ele » et vous avez « Mi ». Et en fait, « Mi bara Ele » C'est où, Marom Enechem ? Levez vos yeux vers le ciel et voyez Mi Bara Ele. Qui est celui qui a créé cela ? Dit le Gaon de Vilna, c'est quand même incroyable de voir cette analogie, cette symétrie qui se fait entre le verset Mi Bara Ele, qui est en fait Mi qui cela. C'est une idée extraordinaire. Cela, c'est un pluriel. C'est en fait un homme qui voit la pluralité dans le monde. Il voit des réchouis, plusieurs réchouis. Voilà, le monde n'a pas l'air d'être dirigé par un seul être. C'est pas possible qu'un seul être il fasse la Shoah et Matan Torah. C'est pas possible, c'est pas la même personne. C'est pas possible que le même être il nous donne Eretz Israël et cet être il nous envoie la Shoah. C'est pas possible. Donc je vois des forces, plein de forces. Et puis en plus, je suis un scientifique aujourd'hui. Je vois plein de forces, j'ai plein d'explications. E égale MC2, j'ai E machin, j'ai des principes, j'ai des règles, voilà. Moi, je vois Elé, je vois plein de forces. Alors, qu'est-ce que me dit Yeshaya ? Il dit, regarde, Mi Bara Elé. Qui est celui qui est à l'origine de tout cela, de toutes ces forces ? Et Elohim, c'est le nom d'Hachem qui veut dire Baal HaKochot Kulam, le maître de toutes ces forces. Si tu arrives à trouver Mi, qui, c'est-à-dire à le désigner, l'être unique, qui est à l'origine de Elé, tu as Elohim. Voilà. Et si tu ne fais pas ce travail, eh bien tu arrives à Mi Zahav, Ele Elohecha Israël. L'origine de la faute, c'est lorsque Aaron il a dit qui a de l'or ? Mi Zahav, et tout le monde a amené de l'or. Il a dit Ele Elohecha Israël, voici vos dieux. Et là il a parlé, il a une multitude de dieux. Il y a une divinité qui se multiplie. Mi Ele. Cette incapacité de désigner celui qui est à l'origine, celui qui est l'être unique, qui est à l'origine de Elé, de toutes les choses tellement diverses et variées. Et qu'est-ce que dit un juif ? Hachem Echad, la dimension de Echad, la dimension centrale dans le peuple juif. Maintenant, si vous comprenez tout ce que j'ai dit, vous allez comprendre en fait que le Gaon de Vilna, lorsqu'on essaye de réunir tout ce qui se passe, il faut comprendre qu'en fait, la problématique fondamentale de l'être humain, c'est la maîtrise des forces multiples qui sont dans le monde et montrer que toutes ces forces, en fait, finalement, dépendent d'un seul être. Maintenant, écoutez-moi bien. Sortir d'Égypte, c'est aller à la dimension de Moshe. Moshe, il a pris les Erevrav parce que Moshe, il se dit, ça y est, je les maîtrise, ça y est, c'est bon, on est sorti d'Égypte. Mais en vérité, les Juifs ne sont pas totalement sortis d'Égypte. C'est ça le problème. Et ils sont toujours dans la problématique. C'est quoi Elé ? Ils sont en train de chercher le taureau et vouloir le détacher du trône céleste. Shamtu qui ignove Ish et Shor, ils ont volé le taureau. Regardez-vous cette phrase que j'ai citée au nom du Gaon de Vilna. Il payera 5 fois le taureau, c'est volé. Cette volonté d'avoir un dieu à tiroir, d'avoir plusieurs, on va dire, adresses. C'est un besoin qu'on a du mal à comprendre, mais je vais vous expliquer tout de suite. L'être humain, il a du mal à accepter cette notion de Echad. Même s'il est convaincu que c'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu qui est sorti d'Égypte, c'est tout ce que... Mais lui, il aimerait entendre qu'il y a un Dieu avec des délégations, avec des compartiments. Je peux parler à cette partie de Dieu, je vais parler avec cette autre représentation, je vais parler... Il a envie d'avoir au moins un chitouf, c'est-à-dire une association, c'est-à-dire d'avoir un Dieu à plusieurs tiroirs. Un peu comme dans le christianisme, où il y a plusieurs des divinités, on voudrait... C'est important pour nous de l'avoir. Pourquoi ? C'est tellement déroutant de parler à un Dieu qui fait tout en même temps et dont on n'arrive pas du tout à comprendre la logique, on ne comprend pas du tout pourquoi un jour il est énervé, un jour il est souriant. Donc on a besoin en fait de couper Dieu en plusieurs parties. Même si on croit que c'est lui qui a créé le monde, même si on croit que c'est lui qui a sorti d'Égypte, même lorsque vous voulez le servir, vous aurez bien envie d'avoir un Dieu sympa, puis un Dieu moins sympa, et puis voilà, je gère le moins sympa, mais d'avoir le même personnage qui est tout le temps, c'est le reproche que vous faites à votre femme. Vous dites, je te comprends pas. Un jour, tu es soupolé, tu vous dites, tu es soupolé. Un jour, j'arrive pas du tout à te lire. Hier, tu étais en super forme, magnifique, tu étais en train de sourire tout le temps. Aujourd'hui, mais c'est une catastrophe. Je n'arrive pas à gérer ça. J'ai envie de savoir qui j'ai en face de moi. Dis-moi, quel est ton vrai visage, madame ? T'es celle qui sourit ou celle qui fait la tête ? Quelque part, vous aimeriez qu'elle soit lisible. Au moins, vous savez à quoi vous attendre. Vous savez comment gérer. Vous avez quelque chose d'un opposant ou un allié. Vous avez quelque chose qui est dans l'attaque ou quelque chose qui est là. Vous venez, voilà, parce que le matin, vous arrivez gentiment. Comment ça va ? Et pouf ! J'étais pas prêt là, j'ai pris une droite, j'étais pas du tout prêt à recevoir ça. Je suis choqué. Au moins, si je sais à l'avance que ça va être compliqué, moi j'y arrive avec sur les petits pieds, je fais attention, je m'attends, je garde la distance. Mais là, j'ai été surpris. Ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu les surprend. D'un côté, il tue les Égyptiens, il est puni, il est aussi surtout, il apparaît surtout comme un être qui punit, qui frappe. Les Égyptiens sont morts, les Juifs, lorsqu'ils reçoivent la Torah, ils sont morts de peur. Donc c'est un Dieu extrêmement dur qui voit, n'est-ce pas ? C'est comme ça qu'ils l'ont besoin. Adonai ish milchama, Adonai shemo. C'est un homme de guerre. C'est dur. Et Matan Torah, il va faire un truc sympa, genre une petite symphonie de Mozart, avec des herbes partout, un peu de, je sais pas, un lac au fond, du bleu, du vert, du, je sais pas, un petit... Bon, un petit ambiance sympathique. Non, c'était du feu, des tonnerres, des éclairs, des chauffards qui assourdissants. Ils ont senti un Dieu terrifiant. Maintenant, cette dimension de terrifiante, ils veulent quelque part la gérer. Comment ils veulent la gérer ? En essayant de cloisonner. Lorsque vous cloisonnez, vous arrivez plus facilement à gérer un problème. Mais lorsque vous êtes dans quelque chose de général, vous n'arrivez pas à comprendre le système, vous êtes perdu. Donc même en croyant Dieu, et croyant que Dieu est peut-être Rachamim, mais vous avez envie d'avoir quelque chose, un interlocuteur multiple pour pouvoir gérer différents types de relationnels. Vous vous rendez pas compte à quel point ce que je vous dis, je le ressens lorsque je vois dans des maisons de deuil, et je vois dans des l'avenir, les derniers moments de joie, les gens, ils ont du mal à aller de l'un à l'autre. Ils ont du mal à parler à un Dieu qui est unique. Ils ont du mal. Mi ele, Elohim. Maintenant, j'arrive à la conclusion. Je vous ai dit que le shor, le taureau, est une dimension commune à Yosef et Esav. Esav, il est le taureau destructeur. Et shor, le taureau de Yosef, est un taureau constructif qui amène la richesse. Yosef, il a amené la richesse. Le taureau qui tire la charrue, le bœuf qui tire la charrue et qui amène la prospérité. Le peuple juif se dit, voilà, Akadosh Baruch Hu, peut-être, il attend de nous, c'est bien jusqu'où il veut aller, il attend de nous que nous fassions cette différenciation entre la Yira et la Hava et que nous ayons une gestion personnalisée, on va dire comme ça, à sa partie Gevura. Et nous allons réfléchir comment est-ce qu'on peut vraiment servir cette partie-là, Gevura. Et ils se disent, on va faire un veau d'or, c'est-à-dire quelque chose qui rappelle la dimension de Yosef, mais pas pour rejeter Dieu, pas pour l'écarter, au contraire, pour pouvoir lui parler, pour pouvoir échanger avec lui, pour trouver un langage. Ça veut dire que ce que je veux dire, c'est que quelque part, on va retrouver Ibn Ezra, Rabbi Yehuda Levi, qui nous disent que c'est une représentation mouchachite de Dieu. Ce n'est pas une représentation dans le sens, comme on pourrait le comprendre, de pouvoir simplement avoir quelque chose à voir. On voit quelque chose. Ce n'est pas seulement voir quelque chose. C'est avoir un langage bien polissé, bien préparé par rapport à un Dieu qui est... C'est comme si vous pouviez... Vous avez un rendez-vous avec quelqu'un, vous pouvez commander à l'avance le Dieu de Gvoa. Alors maintenant, aujourd'hui, Dieu Achani, c'est que vous savez à l'avance à qui vous avez affaire. Donc vous demandez au taureau, monsieur le taureau, tu représentes la Gevura, tu nous permets d'accéder à Dieu, de lui parler sous ce canal. Voilà. Puisque c'est ce canal que nous savons, que nous connaissons. Bien le Gaon Vilna, il nous dit, ça c'est la dimension de Rocher, Hamor, Shor, Kelev. Ces trois animaux symbolisent Ishmael, Esav et Erev Rav. Le Erev Rav, il a mis le bins. Parce qu'il a mélangé à cette revendication qui était pure, une revendication qui n'était plus une revendication, mais qui était un rejet. Quelque part, ils ont distillé leur venin. Et leur venin, c'était quoi de dire ? Azout. Il faut... C'est une forme de rejet. Il n'y avait plus qu'un problème de tout. C'était un rejet. Donc Moshe, lorsqu'il casse les louchot et l'alliance... En fait, pourquoi Moshe casse l'alliance ? Il dit, en vérité, ce n'est pas juste une volonté de communication, comme je suis en train de l'expliquer. Ce n'est pas simplement une volonté d'amadouer un dieu, de trouver le canal de trucs. C'est une... Vous avez, à cause du Erev Rav, été inoculé par un venin qui est le venin de la rébellion. Vous ne vous en rendez même pas compte, mais c'est une façon de dire zut à Dieu, de lui dire de le jeter dehors. Parce que s'il n'y a pas une soumission totale à Dieu, non seulement dans sa façon d'agir, mais aussi dans sa façon de nous demander de le servir, etc., c'est une forme de rébellion. Vous êtes dans la rébellion. Et eux, ils ne pensaient même pas, je pense qu'ils ne savaient même pas à quel point cet acte est un acte de rébellion. Je pense que dans leur tête, ils étaient en train de se dire, on va mieux parler à Dieu. Le canal sera plus propre, plus facile, nous allons pouvoir bien communiquer. Voilà ce qu'ils pensaient, eux. Eux, ils pensaient que c'était un shor comme Yosef, un shor kasher. Et il s'est avéré que c'était un shor tamé. Parce que dedans, les Erev Rav sont venus et ils ont mis leur poison. Et ce poison a transformé cet acte en un acte de rébellion. Ça aurait été une faute, c'est sûr, Rabotai. Certainement, c'était une faute. Mais est-ce que c'était une faute si grave pour justifier la cassure des louchot ? C'est ce que Moshe leur a dit. En cassant les louchot, il leur a dit, vous avez tout cassé. Vous avez brisé quelque chose. Mais eux, ils étaient choqués, disant, mais on n'a pas cassé, on a fait une petite faute, d'accord. On a fait Pessel, une représentation, mais nous, on ne voulait pas se détacher de Dieu. Moshe leur dit, non. Ce que vous venez de faire... C'est un acte de rébellion, qu'on soit clair là-dessus. Et c'est pour ça qu'il a fait cet acte aussi dur, pour qu'ils comprennent la gravité de leur acte, mais qu'ils ne comprenaient pas, ils ne voyaient pas. La preuve, il est descendu. Il n'a pas eu besoin de parlementer avec eux. Il leur a dit, mais c'est quoi cette histoire ? Il s'est énervé. Il a pris le veau d'or, il l'a transformé en poudre. Il leur a dit, vous allez manger, boire. Qu'est-ce qu'il a fait de la poudre ? Il l'a jeté dans l'eau. C'était le puits de Biriam. Il leur a dit, vous allez boire comme la femme Sota. On va voir si vous êtes fidèle à Kadosh Baruch Hu. Regardez, vous êtes infidèle. Non, infidèle, mais jamais la vie. C'est une façon de parler à Hachem, c'est une façon d'avodat Hachem, c'est un Mishkan qu'on voulait créer, un Ron, on voulait trouver un canal. Hachem lui a dit, non, vous êtes dans la rébellion. Regardez, mangez, buvez cette eau pour voir si vous êtes fidèle. C'est quoi l'histoire de fidélité ? C'est que vous prenez une Sota. Sota, vous savez pas ce qu'elle a fait dans la chambre. Elle s'est enfermée avec quelqu'un. Vous lui avez dit, ne rentre pas, elle est rentrée. Elle s'est enfermée devant témoin, mais on sait pas ce qu'elle a fait à l'intérieur. Elle sort en disant, mais j'ai rien fait. Vous dites, non, t'as fait. En fait, ce soupçon de Sota, c'est révèle exactement le sujet que je suis en train de vous dire. Est-ce que vous étiez dans une rébellion ou pas ? Ils disent, non, rébellion, jamais la vie. Mais vous avez bien dansé autour du vaudor. Oui, mais ce n'était pas une rébellion. Mais les Erev Rav ont distillé un venin qui en a fait des Sota. En fait, de cet acte, un Maasé Sota, un Maasé Stia. Il a tout caché et gâché. Et malheureusement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est tellement parlant ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les trois clipotes, les trois éléments se réunissent à la fin des temps. C'est connu comme ça, il dit Gaon Vilna. Et à la fin des temps, on retrouve Ta'avani, c'est-à-dire dimension de la Ta'ava. Bon, ça, on ne va pas faire de longs discours. Je pense que tout le monde l'a compris que c'est très présent. Ça, c'est Ishmael. Ishmael, il s'appelle Ta'avani parce que son Olam Haba, comme j'ai dit plusieurs fois, c'est les vierges. Donc si quelqu'un, son Olam Haba, c'est les vierges, c'est qu'en fait, son Olam Hazé, c'est une frustration pour y arriver. Donc c'est finalement une volonté de. Bref. Ta'asani, le coléreux. C'est Esav qui est là avec sa violence, son exigence. C'est Kaasani, c'est le coléreux. Et il y a Kelev, le Chutzpa, Azout Panim. Aucune gêne. Je fais des choses catastrophiques, mais je n'ai aucune gêne. Je les affiche sur les réseaux sociaux. Je mets mon profil en train de faire des choses catastrophiques et je dis à tout le monde, regardez. Ça, c'est Kelev, le chien, c'est-à-dire le Az Panim. C'est pas de l'audace, c'est pas de la vérité, c'est de la chutzpa, c'est de l'effronterie, c'est honteux. On dévoile des mœurs horribles devant tout le monde. Et ça, personne, tout le monde en plus. Donc on est dans Erev Rav, associé à Esav et Ishmael. Ben, tous les jours, vous entendez. Esav et Ishmael, vous les voyez ensemble tous les jours. Donc vous avez ces trois éléments qui s'appellent Rocher. Donc on est dans un Rocher, Hamor, Shor, Kelev, Esav, Ishmael, Erev Rav, qui est là, et on essaie de s'en sortir. Quel est le moyen de s'en sortir ? Il y a une seule manière de s'en sortir. Le moyen, c'est d'accomplir la Torah et les mitzvot en ne comprenant la danger que représente le non-investissement dans cette Torah et dans ces mitzvot. Et surtout, Re'u mi bara ele. Essayez de recréer le mot Elohim qui a été coupé par le mi, la questionnement, qui ? mis sa valeur numérique 50. Donc soit il est Elohim, c'est donc le pluriel de Eloka, Elohim, et donc ça au contraire, ça représente Baal HaKochot Kolam, celui qui réunit toutes les forces, soit c'est mi, c'est le questionnement, et en fait c'est un questionnement qui est en fait une remise en question, qui n'est pas en fait un questionnement, c'est une remise en question, et là on est complètement parti dans autre chose. Chardini, Shabbat Shalom, Rami Chanan, Gershomer, Ratzak, Kadosh, Baruch Hu, les accords d'Israël. Le Fira, bien adoré, Mitzvot, Shenemar, Adonai, Chafet, Fina, Tipo, Yagdil, Torah, Yadir, Kadish.